Résonance rocheuse. Résonance. Résonance rocheuse. Avec Laurence Martin, artiste sculptrice fondatrice de la ferme de Tétis. Pier Paolo Brenna, conservateur à la réserve nationale de Ristola-Montviso. Et Julien Godefroy, géologue et géomorphologue à l'ONF. À la découverte des roches des Hautes-Alpes et leurs secrets. Création d'Aline Claire, dans le cadre du projet Épilogue porté par Bienvenue là-haut. Diffusion tous les lundis à 18h.
Je m'appelle Julia Godefroy, je suis géologue de formation et en ce moment je travaille à l'Office national des forêts au service RTM, restauration des terrains en montagne. Et du coup, on est un service qui s'occupe un peu de la thématique des risques naturels sur tout le département des Hautes-Alpes. Je suis géologue géomorphologue. Ce métier, on va dire, il consiste à, par exemple, étudier s'il y a des chutes de blocs quelque part. On va aller expertiser la falaise, comprendre s'il y a un risque encore de chute de blocs vis-à-vis de cette falaise, si l'affleurement, donc si la falaise par exemple elle est fracturée, s'il y a des blocs qui sont encore en instabilité. Donc du coup on fait toute une étude et après notre étude servira à estimer comment on peut protéger les maisons, les routes qui sont situées en dessous. La géologie, ça va plutôt être une science qui s'intéresse au sous-sol, vraiment aux roches qui structurent le sous-sol. Donc ça va être les parois rocheuses, c'est vraiment la nature en fait des roches. Dans les écrins on a du granit, dans le Kira, plutôt dans les gorges, on a du calcaire. Quand on va plutôt vers le Viso ou vers la tête d'Étoilly au fond de Saint-Véran, on va plutôt avoir des roches qu'on appelle des ophiolites. Donc c'est des roches qui sont plutôt associées à une ancienne dorsale océanique. C'est la preuve qu'il y a eu un océan à un moment donné dans cette zone. On a plutôt des schistes lustrés aussi. Les schistes lustrés, ça va plutôt être autour de Abriès, Château. Ça, c'est plutôt des roches qui sont sédimentaires. Donc, c'est des roches qui se sont formées au fond de l'océan. Des petits coquillages ou de l'argile qui a sédimenté et qui a formé du coup soit du calcaire, soit les schistes, comme on connaît bien dans le Kera. La géomorphologie, c'est plutôt une science qui s'intéresse au paysage, à la façon dont le paysage a été formé, dont il est formé et comment il fonctionne. C'est-à-dire que là, on est à la case déserte, on peut voir les signes passer du coup des glaciers, on peut voir l'influence des ravins par les écoulements torrentiels, on peut voir l'érosion aussi. Voilà, la géomorphologie, c'est vraiment essayer de comprendre comment fonctionne le paysage dans lequel on est et comment il peut aussi évoluer. Et voilà, associer chaque forme qu'on va observer sur le terrain à un passé. Moi, pour arriver à ce métier de géologue-géomorphologue, j'ai commencé par faire une licence en sciences de la Terre à Marseille. Et puis ensuite, je suis partie étudier en un premier master sur la géologie des planètes, un master de planétologie, on appelle ça. C'était vraiment étudier les planètes telluriques, donc toutes les planètes rocheuses du système solaire. On a étudié un petit peu les planètes gazeuses, mais beaucoup plus les planètes rocheuses. Ensuite, je suis partie à La Rochelle pour faire un master qui était plus appliqué, qui était plutôt sur les risques naturels liés au littoral. Donc ça va être l'érosion marine, l'érosion côtière, les risques de submersion, les érosions des falaises typiquement comme en Normandie ou des choses comme ça. Et après, la montagne me manquait trop, du coup je suis rentrée dans les Hautes-Alpes et pour pouvoir travailler ici, il fallait que je trouve un moyen de travailler sur les risques en montagne. Du coup j'ai repris un master pour travailler sur les risques. Donc j'ai fait un master à Chambéry sur la gestion de la montagne. Donc nous, au service RTM, on va plutôt étudier les zones, comprendre comment elles fonctionnent. Et ensuite, on va dimensionner pour ensuite faire des travaux pour protéger Nous, c'est plutôt dans un souci de protéger la population. L'objectif principal du service RTM, restauration des terrains en montagne, dans les années 1860, il y a eu les premières lois RTM qui étaient justement des lois de reboisement. L'objectif, c'était d'arriver à limiter les phénomènes d'érosion en montagne. Et donc, la principale action, ça a été de reboiser et de réengazonner vraiment tous les versants pour justement que les systèmes racinaires des plantes, des arbres, même de la petite végétation, permettent en fait de limiter l'érosion du versant pour éviter qu'il y ait des crues torrentielles après dans les cultures, dans les zones agricoles, qui étaient plutôt au niveau des villages, sur ce qu'on appelle les cônes de déjection, en partie basse des torrents. Donc ça a été vraiment la première lutte de ce qu'on appelle du génie biologique, du génie végétal. Et ensuite, dans les années 1881, il y a plutôt eu une deuxième loi qui a plutôt été liée à du génie civil. C'est-à-dire qu'on est plutôt venu piéger les sédiments dans les torrents. On a construit plein de barrages dans les torrents pour permettre en fait de à la fois stabiliser les versants, favoriser en fait la végétation qui va reprendre toute seule derrière les barrages parce qu'on va stabiliser les berges des torrents. Et puis ça permet aussi en fait de piéger les matériaux pour éviter qu'il y ait trop de matériaux lors de crues. Par exemple, quand on veut construire un barrage dans un torrent, on va chercher justement le socle dur, la roche dure, qui va permettre en fait d'ancrer le barrage. Tandis que le reboisement, c'est plutôt un aspect, on va dire, géomorphologique. Donc c'est plutôt, on va stabiliser le versant et on va limiter l'érosion en retenant les matériaux parce que, en fait, le système racinaire, il va permettre que les terrains se tiennent et que du coup, on n'érode pas du tout comme ça a pu être lorsqu'il y a eu les grandes campagnes de déboisement pour justement installer de plus en plus d'agriculture et éviter que les matériaux arrivent au sein du torrent jusqu'au village. Il y a également des forêts qui ont servi pour lutter contre les avalanches, c'est-à-dire qu'on vient planter des arbres dans les zones de départ d'avalanches, parce que du coup les arbres vont stabiliser le manteau. Il y a aussi des forêts qui servent de protection contre les chutes de blocs. Là on va reboiser une zone sous une paroi rocheuse, et en fait ça va permettre de stopper les blocs qui vont descendre de la falaise. Le service RTM de l'ONF, il a quand même plusieurs facettes avec un peu tous les risques naturels. Donc ça va de la crue torrentielle, donc reboiser des zones pour limiter l'érosion et éviter que les matériaux arrivent au sein du torrent jusqu'au village, limiter les phénomènes d'avalanche, limiter les phénomènes de chute de blocs, limiter aussi les glissements de terrain. Au sein d'un glissement de terrain, donc on sait qu'il y a une couche rocheuse en dessous qui est dure, ce qu'on appelle le socle rocheux, qui est imperméable. Et souvent au-dessus, par exemple, si je prends l'exemple le plus simple dans les Hautes-Alpes, c'est l'Embruné. Dans l'Embruné, on a vraiment des marnes au fond qui sont très dures. Et par-dessus, il y a une couche de moraine. Et du coup, cette moraine, elle est perméable. Donc l'eau va s'infiltrer dans la moraine. Et quand elle va rencontrer la marne en dessous, en fait, l'eau va essayer de s'échapper. Et donc elle va glisser, elle va s'écouler le long de la marne. Et donc elle va emporter avec elle la moraine. Et donc ça fait vraiment des versants très 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 sensibles au glissement de terrain. Là, on a parlé des solutions de génie végétal, de génie ce qu'on appelle biologique, qui permettent vraiment par le reboisement de lutter contre les chutes de blocs, les avalanches, l'érosion, etc. Mais on peut aussi installer des choses plutôt en génie civil, on va dire. Par exemple, des filets de protection sous une paroi rocheuse pour stopper les blocs. On va mettre des écrans, des espèces de filets qui vont venir emmailloter aussi une falaise. Donc il y avait des travaux à Villevieille pour limiter des phénomènes de chute de blocs. Il y a les travaux forcément qu'il y a au-dessus de la route dans la combe de la Chaplue. Après, donc, on fait aussi des barrages dans les torrents pour piéger les matériaux. On va faire des digues hein, pour limiter les débordements au sein des villages ou des routes. On peut mettre aussi en place des systèmes de drainage au sein des glissements de terrain, justement parce qu'on a dit que c'était l'eau qui permettait d'activer un glissement. Donc du coup, l'objectif, ça va être de chercher où est l'eau et de l'évacuer du glissement. Donc on met des drains pour justement limiter les phénomènes de glissement. En avalanche, on peut mettre soit des systèmes de déclenchement des avalanches, donc comme on a pour les stations de ski, donc ce qu'on appelle les PIDA, qui sont les plans d'intervention de déclenchement des avalanches. On va choisir des zones cibles pour pouvoir provoquer des avalanches et sécuriser les domaines skiables, mais aussi ça peut être au-dessus de route pour pouvoir ouvrir un accès lors de gros retours d'est, par exemple dans le cas de l'avalanche de la Fourche à Abriès. On va venir déclencher l'avalanche pour pouvoir sécuriser la route. Il y a plein de choses possibles.
Vous venez d'écouter Résonance Rocheuse par Aline Claire.